Je vous invite à chercher déjà le premier livre des Rois, chapitre 12. Décidément, ces dernières semaines, on est beaucoup dans l'Ancien Testament. Hein. Et en attendant, en vous écoutant chercher, je vous invite à réfléchir sur quelques citations, alors qui ne viennent pas de la Bible, mais qui viennent de gens connus, inconnus pour vous peut-être, je ne sais pas. Premièrement, Jean-Paul Sartre, vous devez avoir entendu parler, je pense. Le seul mauvais choix est l'absence de choix. Tout au long de notre vie, il est question de choix. Pas une surprise, aujourd'hui, on va parler de choix. Choisir, c'est important. Nous sommes nos choix, c'est-à-dire nos choix déterminent ce que nous sommes. Une autre citation dans ce sens-là. Harry Potter, vous connaissez aussi. Hein. Alors c'est dans Harry Potter, c'est pas lui qui a dit ça. Quelqu'un qui a dit « Ce sont nos choix, Harry, qui montrent ce que nous sommes vraiment, beaucoup plus que nos aptitudes. On peut savoir faire quelque chose, être doué, tout ça, mais ce qui est important, ce sont les choix que nous faisons dans nos vies. » Henry Miller, un Américain, qui a dit « L'homme a ce choix, laisser entrer la lumière ou garder les volets fermés. » Ça, ça me connecte aussi à la Bible. Je ne sais pas si on l'a chanté, mais la Bible, c'est la lumière. Important. Puis quelqu'un que vous connaissez, je pense tous, hein, qu'on a entendu la semaine dernière, « Je deviendrai ce que je choisirai de contempler, d'apprécier et d'y consacrer du temps. » Je ne t'ai pas demandé, Joël, si je peux citer, hein, mais voilà, c'était le dernier message de la semaine dernière. Mais c'est vrai que ça fait réfléchir. On a besoin de choisir. Je pense que vous avez eu le temps de trouver le premier livre des Rois. On est parfois tenté de ne pas faire de choix, de les reporter, de se laisser guider par des événements. Mais c'est important de dire et de décider que nos choix, ils peuvent commencer aujourd'hui. Je dirais qu'ils doivent commencer, pas les remettre à demain. Chacun une histoire, des choix, des joies, des blessures. Et puis, j'ai entendu dire aussi, c'est pas ma faute, c'est pas de ma faute, ou, ben voilà, c'est mon caractère, c'est comme ça. Ben, c'est pas ce que la Bible nous dit, c'est pas ce que Dieu nous dit. Dieu, il nous dit, voilà, tu as un historique, tu as vécu quelque chose, mais c'est toi qui dois prendre ta vie en main. Dieu nous demande de faire des choix, de regarder à lui pour avancer, de prendre en main notre vie. On parle dans la Bible, Jésus a parlé du chemin, souvent des chemins étroits, ne sont pas forcément les plus aisés, les plus sympas, les plus faciles, mais des choix qui nous amène à suivre Dieu, à obéir à Dieu. On en a parlé ce matin, Henri nous en a parlé. Quelque temps, Jean-Claude nous a partagé une histoire d'Élisée, il y a 15 jours, je crois, dans le second livre des Rois. Dimanche dernier, nous avons survolé l'étude biblique, le prophète Osée, qui a parlé de la part de Dieu à Israël. Plusieurs histoires de l'Ancien Testament, et Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, 11, et c'est un verset moi qui me marque beaucoup, parce qu'on parle souvent de Nouveau, Ancien Testament, on dit l'Ancien Testament, bof, Nouveau Testament, super. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, il est dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction » à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ces choses, c'est tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, Ancien, Nouveau Testament. Et certaines fois, il y a des exemples à suivre, et puis d'autres fois, des exemples à ne pas suivre. Mais tout ça, ça nous sert d'exemple pour dire, voilà, moi je veux m'orienter à gauche, à droite. en se basant sur ce que Dieu nous dit. Donc maintenant, je pense que vos Bibles doivent être ouvertes. Premier livre des Rois, chapitre 12. Et je vous invite à les garder ouvertes parce qu'on regardera quelques versets du chapitre 11 aussi et puis de la fin du chapitre 12, on ne va pas tout lire. Hein, mais je ne vais pas l'afficher justement pour qu'on ait les regards tournés, plongés dans l'Écriture. On va remonter deux versets avant, hein, si vous le voulez bien. Verset 42 du chapitre 11. Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur l'ensemble d'Israël. Puis il se coucha avec ses ancêtres, il fut enterré dans la ville de son père, David, et son fils, Roboam, devint roi à sa place. Alors Salomon, je pense que vous avez entendu parler. Roboam, c'est peut-être nouveau pour vous. Roboam se rendit, donc chapitre 12, verset 1, Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël y était venu pour le proclamer roi. Lorsque Jéroboam, le fils de Nébat, l'apprit, il se trouvait encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, et c'était là qu'il s'était installé. On le fit appeler. Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent alors trouver Roboam et lui dire « Ton père a exercé une dure domination sur nous. Quant à toi, maintenant, allège le dur service et la domination particulièrement lourde que nous a imposée ton père, et nous te servirons. » Il leur répondit « Allez-vous-en, revenez vers moi dans 3 jours. » Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les anciens qui avaient été au service de son père, Salomon, pendant sa vie. Il leur demanda « Que me conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Verset 7, voici ce qu'ils lui dirent. « Si aujourd'hui tu as une attitude de serviteur envers ce peuple, si tu te montres à leur service, si tu leur réponds de façon positive en leur adressant des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam délaissa le conseil que lui donnaient les anciens et consulta les jeunes qui avaient grandi avec lui et qui faisaient partie de son entourage. Il leur demanda « Que me conseillez-vous de répondre à ce peuple ? Ils me tiennent ce langage, allège la domination que ton père nous a imposée. » Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. « Le peuple t'a tenu ce langage, ton père nous a imposé une domination particulièrement lourde, mais toi allèges son poids. De ton côté, dis-leur, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Mon père vous a imposé une domination particulièrement lourde, et bien moi, je la rendrai plus lourde encore. Lui vous a puni avec des fouets, moi je vous punirai avec des fouets munis de pointes, avec des scorpions, je crois que ça s'appelle. » Jéroboam et tout le peuple vinrent trouver Roboam le troisième jour, conformément à ce qu'avait dit le roi, revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit avec dureté au peuple. Il délaissa le conseil que lui avaient donné les anciens et leur dit, d'après le conseil des jeunes, mon père vous a imposé une domination particulièrement lourde. Moi, je la rendrai plus lourde encore. Lui vous a puni avec des fouets. Moi, je vous punirai avec des fouets munis de pointes. Ainsi, le roi n'écouta pas le peuple. Cela fut en effet conduit par l'Éternel pour que s'accomplisse la parole qu'il avait dite par l'intermédiaire d'Achija de Silo à Jéroboam, le fils de Nébat. Lorsque tous les membres du peuple d'Israël virent que le roi ne les écoutait pas, ils lui répondirent « Quelle part avons-nous avec David ? Nous n'avons pas d'héritage avec les fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant occupe-toi des tiens, David. » Et Israël retourna dans ses tentes. Les Israélites qui habitaient les villes de Juda furent les seuls qui reconnurent Roboam comme roi. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux corvées, vers les Israélites. Mais ils le lapidèrent et il mourut. Le roi Roboam s'empressa de monter sur un char pour se réfugier à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la famille de David jusqu'à aujourd'hui. On s'arrêtera là pour la lecture. Je vais quand même ouvrir ma Bible pour d'autres versets. Là, je ne sais pas, il y en a beaucoup, je pense, qui ont entendu ce récit, cette histoire. Ce n'est pas très réjouissant. pas très réjouissant de la part de plusieurs personnes. Quels sont les acteurs ? On a cité Salomon. Salomon. Alors, c'est qui Salomon ? Il y a trois rois qui ont déjà régné sur Israël. Il y a eu le premier roi, Saül, ensuite David, et le troisième, Salomon. On le voit dans 1 Samuel, 2 Samuel, un roi. Et chacun a régné environ 40 ans. Environ, il y a eu des chevauchements. Et le récit, vous l'avez vu, se situe juste après la mort de Salomon. Alors il est mentionné au verset 2 et 6, fils de David et de Bathsheba. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bathsheba, c'est pas l'épisode le plus glorieux de David. David a fait mourir son mari, enfin bon, c'est compliqué, mais c'est pas l'objet. Là. Son nom, Salomon, veut dire pacifique. David, lui, est dit aimé de l'Éternel. On lit ça dans 2 Samuel 12, 24-25. Malgré ce qu'il a fait, malgré ses péchés, David est aimé de l'Éternel. Il a fait des bêtises, il a péché, il s'est repenti. Il a été vers l'Éternel et il s'est repenti, pas seulement extérieurement, mais intérieurement aussi, de son cœur. Salomon, lui, son règne est mentionné dans les 11 premiers chapitres du livre des Rois, premier livre des Rois. Quand on parle de Salomon, je pense que tout le monde sait, on parle de sagesse. Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux ? Je voudrais de la sagesse. Super. Connu pour sa sagesse, il bâtit le temple de l'Éternel à Jérusalem, bâtit aussi une maison pour le roi. Respecté, admiré, visité, enfin, c'est. Il n'y a personne qui avait autant de prestance, de richesse, enfin, c'est impressionnant. Je vous invite à lire les 11 premiers chapitres de Un roi. Mais vous pouvez prendre Un roi 11, donc c'est pour ça qu'il faut garder les livres ouverts. Un roi 11, versets 1 à 8. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Éthiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, elles ne viendront point chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes, 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David. Là, ça se passe moins bien. Il avait bien commencé, Salomon. Et Un roi, donc 11, verset 6. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne le suivit pas pleinement, contrairement à son père David. Quelque chose qui doit nous marquer. En conséquence, vous pouvez regarder, si vous voulez, dans Un roi, chapitre 11, verset 11, Dieu lui annonce que son royaume sera divisé. Parce que Salomon s'était détourné de Dieu, pas seulement de prendre des femmes étrangères, mais il avait, on va voir, vraiment fait des grosses bêtises, construit des autels à des dieux étrangers. Son royaume sera divisé. Deuxième personne de ce récit, Roboam, donc fils de Salomon. On n'en parle pas beaucoup de Roboam. Mentionné pour la première fois dans 1 roi 11, verset 43, le verset qu'on a lu, devient roi après la mort de Salomon, et lui aussi a le choix de bien commencer, parce qu'il consulte les anciens, alors les seniors, on dirait maintenant, donc on peut avoir des fois de bons avis, hein. Ça, c'est pas inutile des fois de consulter les seniors. Voilà, mais on va voir après les choix qu'ils font, on va détailler un petit peu ces choix. Troisième personnage, Jéroboam, serviteur de Salomon, homme fort et vaillant, chapitre 11, verset 39, utilisé par Dieu pour humilier la descendance de Salomon pendant un temps. De bon début, Jéroboam. Il écoute le prophète Achija, okay, et il va voir Roboam. Voilà, moi je te propose, truc, on fait un deal, tu as une attitude de serviteur, tu écoutes, c'est pas tu fais ce que le peuple demande, mais tu l'écoutes, tu réponds en partie à ses besoins, et ils te serviront. De bon début. Encore deux acteurs, le peuple. Bah oui, le peuple, il est mentionné dans ces récits. Le peuple, c'est vrai qu'il fait suivre, il suit les chefs, mais il est présent à chaque fois, et c'est important de le noter. Pas seulement les chefs qui décident, le peuple est là, il entend, il écoute. Cela n'enlève pas la responsabilité individuelle de chacun. Du peuple. Il pourrait dire ben, moi je suis à droite, à gauche, moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Le peuple est mentionné, c'est pas anodin. Et puis, bien sûr, Dieu parle à travers de deux prophètes. On ne l'a pas lu, mais dans la fin du chapitre 11 de Un roi, Achija annonce à Jéroboam de la part de Dieu qu'Israël se séparera en deux. Qu'il régnera sur 10 tribus. Et un peu plus loin, dans le chapitre 12, Shemeja, je ne sais pas si je le prononce bien, qui dit de la part de Dieu à Roboam et au peuple de ne pas faire la guerre à Jéroboam. Bon, deux interventions de Dieu, mais c'est Dieu qui intervient au travers de prophètes. Alors, on a vu ces cinq personnes. On va s'intéresser aux choix maintenant, aux choix que chacun a fait. Des choix malheureux. Ce texte, il nous montre des hommes qui sont à la tête du peuple de Dieu et qui font volontairement des choix contraires à la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu, mais ils font des choix contraires. Et les conséquences sont assez désastreuses. Si on lit les chapitres 11 et 12, aucun ne consulte l'Éternel. Ils consultent alors les anciens, okay, qui peuvent avoir de bons conseils. Ils consultent les jeunes, ils font un peu ce qu'ils veulent. Voilà. Aucun ne va consulter l'Éternel. C'est l'Éternel qui envoie des prophètes, mais il pourrait dire, bah, moi je veux aller voir l'homme de Dieu pour savoir quoi faire. Salomon, il néglige le commandement de Dieu, il s'éloigne, et il connaissait la parole de Dieu, il connaissait les avertissements, il savait qu'il prenait un gros risque. Vous n'irez pas chez elles, parlant des femmes étrangères, elles ne viendront pas chez vous, elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. Et ce fut à ces nations que Salomon s'attacha par amour de ces femmes, ce qu'on a lu. Salomon qui cherche aussi à tuer Jéroboam, parce qu'il avait appris la prophétie d'Achija, et Salomon, il n'est pas d'accord. Il dit, non, moi je veux garder toute la... que Roboam, ma descendance, garde toute Israël. Et il désobéit à Dieu, il sait que c'est Dieu qui avait annoncé cela. Et il s'imagine lutter contre Dieu. faire autre chose que ce que Dieu avait prévu. Il cherche à tuer Jéroboam, c'est pour ça que Jéroboam s'était enfui en Égypte. Chapitre 11, verset 40. Et puis Roboam, il choisit le pouvoir, le choix de dire, j'ai une attitude, c'est pas marqué, je serai serviteur. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous a frappé, il y a quelqu'un dans le Nouveau Testament qui est dit, soyez serviteur pour être élevé. Jésus a été serviteur. Et ensuite, il est monté à la droite de Dieu, il est adoré, glorifié. Mais non, Roboam, lui, préfère asservir le peuple, préfère opprimer le peuple au lieu de l'écouter. Ensuite, quelqu'un d'autre qui a fait un choix. Jéroboam, opportuniste. C'est vrai qu'Achija lui avait annoncé, quelque chose, tu seras à la tête de 10 tribus, ok. Mais, bon début, il a été voir Roboam, il dit, si tu agis bien, on te suivra, on sera à ton service. Roboam n'a pas fait ça, mais après, on ne l'a pas lu, chapitre 12, il ne fait pas confiance à Dieu. Et c'est lui, vous avez entendu parler des Samaritains, du Nord, des 10 tribus, c'est vraiment à ce passage-là où tout s'est joué, justement, cette séparation avec, au Nord, des tribus qui vont adorer d'autres dieux. Des choix qui sont impactants pour Israël, pour eux-mêmes d'abord, mais pour tout le peuple. À la fin du chapitre 12, il a peur que le peuple d'Israël se détourne de lui et il construit des veaux d'or à Bethel, à Dan, pour que le peuple adore. Ça rappelle l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. Il institua aussi des sacrificateurs qui ne viennent pas de la tribu de Lévi. Ce fut là une occasion de péché. Des choix qui auront de lourdes conséquences sur le peuple d'Israël. Une division du royaume d'Israël, l'adoration de faux dieux, l'abandon de la connaissance de l'Éternel. On en parlait il y a quelque temps. La connaissance de l'Éternel. Est-ce qu'on cherche à connaître l'Éternel? Est-ce qu'on cherche à connaître sa volonté? Qu'on cherche à le connaître? Et là, chacun est responsable, autant les dirigeants que le peuple. Je vous ai brossé un petit peu l'histoire, le contexte de cette période où justement le peuple d'Israël est divisé, une période où chacun va adorer, va se détourner de l'Éternel. Et ça nous pose la question de savoir quels sont mes choix, quels sont mes critères de choix. La Bible ne donne pas de réponse précise à toutes mes questions. Elle ne va pas dire, je dois acheter telle voiture, je dois faire tel travail. Tous les choix que je dois faire, c'est personnel. Maintenant, on a chacun des critères. On dit, si je fais tel choix, c'est pour telle raison. C'est pour x, y raison. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir les cartes en main. Être maître de ses destinées, avoir des satisfactions immédiates à court terme. Et Dieu nous met en garde, justement, sur nos motivations, sur le fait que lui seul connaît toutes choses. On ne connaît pas, nous, l'avenir. On ne sait pas ce qui est bien, mais Dieu, il nous éclaire. Dans notre texte, le choix de ces hommes a eu un impact national, un impact sur le nom de Dieu aussi. Sur la direction du peuple aimé de Dieu. Dieu est intervenu pour avertir son peuple, pour mettre en lumière le péché du roi, des dirigeants et du peuple. Salomon connaissait l'avertissement de Dieu, on l'a dit, concernant les unions avec d'autres peuples. Ses conséquences, il était naturel que son cœur se détourne de Dieu. Ce n'est pas une punition de Dieu, Dieu l'avait averti. C'est naturel, c'est humain. Mais des fois, on se met dans des situations qui ne sont pas forcément les meilleures pour suivre Dieu. Dieu avertit, Dieu punit aussi, Dieu restaure. On l'a chanté beaucoup lorsque nous retournons vers lui. Et l'exemple de David est manifeste. Combien sa grâce et son amour nous rassurent. Le verset 13 du chapitre 11, je vais le retrouver. Je vais le lire parce que c'est Dieu qui dit justement quelque chose de particulier à Jéroboam. Ça concerne l'amour de Dieu, sa fidélité. Dieu avait fait une promesse à Abraham, à Jacob. Il est dit, je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Ça doit nous faire réfléchir parce que Dieu tient ses promesses. Nous, on peut s'éloigner. On peut désobéir, mais Dieu tient ses promesses. Il suffit de retourner à lui. Il nous aime et il pardonne. Son plan s'exécute malgré nous, malgré nos péchés, malgré notre désobéissance. Mais on a les cartes en main. Quel scénario choisir ? Celui de la vie ou celui de la mort ? De quel modèle je veux m'inspirer ? Celui de David ? Celui de Salomon, Jéroboam. Enfin, moi, je sais que j'ai choisi. De quel modèle je veux m'inspirer? Ça, c'est un choix aussi. Ceux qui réussissent, ceux qui sont sur le devant de la scène, ceux qui ont plein d'argent, le pouvoir, ou ceux qui sont, j'allais dire, serviteurs. On parle beaucoup de service dans l'Église. Voilà, ce n'est pas quelque chose d'humiliant, c'est quelque chose, justement, de super, enfin d'enrichissant quand on voit tout ce que Dieu peut nous donner. Quel modèle je veux m'inspirer ? David qui pécha, toi par cupidité qui se repentit sincèrement, ou de Salomon, sage, riche, qui finit par adorer d'autres dieux ? Dieu nous laisse libres de nos choix. Il nous éclaire sur les conséquences. Pour ça, moi, j'aime bien parler de lumière, parce que Dieu nous éclaire. Nous sommes responsables de nos choix, de choisir ou non, de nous laisser entraîner loin de Dieu. C'est important de savoir que Dieu nous parle. Est-ce qu'on veut l'écouter ? Ce verset, moi, il m'a marqué. Je vous invite à le souligner, à le stabilo-bosser, l'écrire, l'attacher dans vos cheveux. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent la vie et sa durée. C'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Il faudrait l'adapter à l'Église, ce verset. On ne parle pas forcément de pays physique pour nous, mais on parle de... Je crois qu'on l'a chanté, nous sommes le peuple de Dieu. Enfin, on ne l'a pas chanté aujourd'hui. Nous sommes le peuple de Dieu. Est-ce qu'on veut rester dans... Est-ce qu'on veut rester enfant de Dieu ou est-ce qu'on veut s'éloigner de Dieu? Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose d'intérieur, hein. Deutéronome 30, 19. Donc, quelle décision je veux prendre aujourd'hui ? Orienter mes choix en fonction de mes intérêts, envie, désir, égoïsme, mes rancœurs, ça peut jouer, mes ambitions, mes peurs, l'argent, la sécurité, plein de choses qui peuvent guider, orienter mes choix. Ça ne veut pas dire que tous ces critères-là, ils sont mauvais, hein, mais quels sont mes critères, mes premiers critères de choix ? Est-ce que je regarde par rapport à ce que Dieu me demande ? Est-ce que je m'éloigne de Dieu en faisant certains choix ? Est-ce que je peux orienter, est-ce que je veux orienter mes choix en les confiant à Dieu ? Alors comment ? Vous savez, cherchant à mieux connaître Dieu, sa parole, la connaissance, c'est important. Connaître Dieu, lisant sa parole, en échangeant, en parlant avec lui, en prenant du temps dans sa présence, en priant, en lui obéissant, bien sûr, en cherchant sa volonté auprès de conseillers fidèles, pas seulement des seniors, mais des conseillers fidèles, en lui faisant totalement confiance. Et pourquoi ? Quel but ? Entrer dans son repos, on en parlait mardi dernier dans la cellule, entrer dans son repos pour vivre dans la vérité et aussi pour rayonner, pour être une lumière, c'était le but de Dieu en choisissant un peuple élu, peuple d'Israël, pour être la lumière des nations. Jésus, quand il était sur terre, était la lumière des nations. Nous sommes maintenant la lumière des nations, un représentant de Dieu dans ce monde. Aujourd'hui, choisissons la vie en aimant l'Éternel, en lui obéissant, en s'attachant à lui. Et je vous laisse... Alors, ce n'est pas un verset de la Bible, mais j'aime bien cette citation quand même. L'homme a ce choix, laisser entrer la lumière ou garder les volets fermés. On parle... Alors, l'autruche, je ne suis pas sûr qu'elle met la tête dans le sable. C'est une... C'est pas vrai, c'est une joke. Mais voilà, on a ce choix, laisser entrer la lumière, garder les volets fermés et surtout choisir d'obéir ou pas à ce que Dieu nous montre, ce que Dieu nous révèle. Je vous invite à courber les têtes, à prier, à réfléchir peut-être au choix que vous avez à faire, un choix primordial, peut-être pour le salut, ou un choix pour rester dans l'obéissance à la parole de Dieu. Des choses qui ne sont pas forcément faciles parce qu'on ne connaît pas l'avenir, mais il nous demande de lui faire confiance, de mettre tous nos doutes, tous nos problèmes à ses pieds. Et lui nous donnera le repos. Lui nous montrera qu'il est là, qu'il nous tient la main, qu'il nous conduit. Ayons un moment de silence. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tous ces exemples, bons, mauvais. Aide-nous, Seigneur, à faire le bon choix, à choisir la vie éternelle et aussi la vie sur terre, à nous orienter, Seigneur, dans le bon chemin, parce que tu nous promets de riches bénédictions, Seigneur, dans nos cœurs. Seigneur, aide-nous à rester fidèle. Merci pour ton esprit que tu mets en nous, qui nous éclaire, qui nous guide. Aide-nous à le laisser agir. Aide-nous à l'écouter. Et aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique vraiment ce que tu nous demandes. Merci pour ton amour, ta patience, ton pardon. Merci pour, Seigneur, la voie que tu as tracée pour tout ce que tu nous prépares, Seigneur, dans le ciel. Je loue ton nom, au nom de Jésus. Amen. si des certaines personnes se disent, bah, moi, je veux faire un choix aujourd'hui, je vous invite à peut-être aller voir un ancien, pouvoir prier après, pouvoir discuter. Il ne faut pas remettre nos décisions au lendemain.